Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Gabriel Naudet. Salut.
Salut.
Et Silver Le Rouge. Salut également.
Salut.
Tous les deux, on se rappelle de vous sur notre antenne, Sniff, parce que vous animiez pêle-mêle bêche cette émission de jardin. Bien agréable un vendredi par mois, l'année dernière en tout cas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous faites tous les deux partie de l'association Les Potagers Rares et on va en parler. Présentation, allez, qui se lance?
Merci Sylvain.
Gabriel.
En fait, l'association est née en 2009 et c'était des jardiniers de jardins familiaux de l'Aube qui s'étaient réunis, qui ont créé une association pour être un interlocuteur de la mairie. Parce qu'au jardin familial de l'Aube, il n'y avait plus d'eau, c'était l'été. Et donc, ils ont porté un peu leurs revendications devant la mairie. Suite à ça, donc, ils se sont constitués en association, parce que c'était plus simple d'avoir un interlocuteur unique comme ça. Ils ont même monté des dossiers de demande de financement pour faire avancer un petit peu le projet, créer des cabanons au jardin. Et la mairie s'est rendue compte qu'elle était sous convention de gestion avec R, l'association d'insertion.
Donc,
voilà. Donc, en fait, les potagers rares ont été associés à la gestion des jardins familiaux à partir de ce moment-là, à partir de 2010. Ils ont fait partie du comité de pilotage pour faire les attributions des parcelles. Ils ont participé à l'organisation des fêtes des jardins, présents toujours, mais sans activité tellement propre. En fait, ils faisaient partie toujours du projet des jardins familiaux.
Juste pour resituer un petit peu l'historique un peu plus anciennement, cette association Les Potagers Rares, elle est née autour du projet des jardins familiaux de Die, donc qui est déjà un peu connu, qui se trouve en partie à l'Aube et au Perrier.
Ah, peut-être, est-ce qu'on pourrait simplement, j'avais envie de le faire, rappeler ce qu'est des jardins familiaux, ce que sont?
Alors c'est un projet qui a été créé par la mairie de Die il y a une vingtaine d'années. Donc c'était sous la mairie de Monsieur Rambaud à l'époque.
Donc la mairie met à disposition des terres qui lui appartiennent?
Voilà, ça a commencé avec un premier terrain qui a été mis à disposition au Perrier, c'est une parcelle de 1000 mètres, donc sur lequel nous on a 8 petits jardins qu'on met en location. Et puis après ça a continué avec le jardin donc, de l'Aube qui est en face de l'école Chabestan, qui est plus grand, qui fait à peu près 2000 mètres carrés, et sur lequel on a une bonne trentaine de parcelles. Alors après, les jardins familiaux, je vais dire... classiques qu'on connaît en France sont un peu différents de ce qu'on a dit, puisque classiquement on a plutôt tendance à connaître des jardins familiaux avec des cabanons individuels où c'est assez individuel en fin de compte, où chacun a sa petite cabane, ses outils, jardine, paye une location à l'année et puis après les gens se rencontrent s'ils ont envie, mais il n'y a pas forcément des choses qui sont prévues dans ce sens-là. Nous c'est un peu différent dans le sens où dès le départ on propose... des cabanons qui sont partagés, des outils qui sont partagés, donc
mutualisation de
voilà
moyens.
Mutualisation des outils. Ça passe aussi par une serre qu'on a complètement mutualisée pour les plants. Donc ça, par exemple, on met en place une serre où les gens font leur semis tous les jours. Il y a une personne qui s'inscrit pour arroser la serre pour tout le monde. Et puis à côté de ça, il y a donc des animateurs. Donc là, c'est Gabrielle qui est animatrice sur ces jardins. Qui tout au long de l'année propose à la fois soit des ateliers pour se former, parce qu'on a beaucoup de gens qui arrivent un peu novices, donc en venant chez nous, on peut avoir l'occasion de se former via des ateliers. On va proposer aussi des chantiers, ce qu'on appelle des chantiers, donc là ça peut être des aménagements qu'on réalise au jardin. Il y a des gros chantiers un peu classiques qu'on fait en début d'année pour installer un peu toute l'eau, l'irrigation, etc. En cours d'année, on peut être amené à proposer un chantier autour du compost, autour de faire du purin d'ortie, aménager. On a un jardin d'aromatique. Donc voilà, il y a des chantiers qui sont organisés régulièrement et puis des pique-niques. Voilà, donc l'idée, c'est aussi d'organiser régulièrement des événements pour que les gens se rencontrent, s'échangent des pratiques. Voilà.
Donc vous cassez l'individualité de ce qu'on voit des jardins familiaux. Moi, le jardin familial qui me tape le plus, c'est quand on est sur la rocade de Lyon, là, et qu'ils sont coincés entre les deux autoroutes, avec effectivement un cabanon tous les deux mètres presque, en tôle dégueulasse. Tout le monde a l'air vraiment très seul au milieu de ses voitures. J'entendais aussi cette histoire de semis. Alors effectivement, beaucoup de gens font le jardin en allant acheter directement les bases. Ça veut dire que au-delà de cette formation, il y a même une prise... beaucoup plus en amont, peu de gens savent faire des semis, par exemple.
Oui, c'est ça. Mais on fait à la fois des trocs de graines aussi. Enfin, là, il y avait eu un troc de graines le 21 mars. On a une banque de graines aux jardins familiaux, qui est la banque de graines de l'association, mais qui est ouverte comme ça pour des échanges avec d'autres jardiniers. On apprend à faire ses graines aussi, ses propres graines, pour certains légumes qui ne sont pas trop difficiles. Et comme les salades, les tomates, voilà. Et après, on apprend aussi, oui, à faire ses semis soit en pleine terre ou sous la serre aussi. Ça, c'est aussi pour se protéger un peu des limaces parfois, ou pour des cultures qui ont besoin de plus de chaleur. Ça permet de pas forcément aller acheter son plant tout fait, ou en tout cas d'en acheter certains si on a raté ses semis, ou si on veut être un petit peu plus précoce puisque nous, la serre n'est pas chauffée. Voilà, ça permet d'avoir un peu tout, de pouvoir faire un petit peu toute la chaîne du jardinage au sein des jardins.
Oui, un peu plus autonome quand même, et moins capitaliste.
Exactement, c'est ça l'idée aussi. Hein. Donc nous, on promeut aussi quand même le jardinage biologique, ça on ne l'a pas dit, mais donc, dans tous les jardins qu'on a, c'est exclusivement donc, sans pesticides, sans engrais chimiques. Donc nous, après, on va essayer de proposer des alternatives, le plus possible, essayer de trouver des solutions qui rendent le jardinier autonome. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un retour du jardin, du jardinage. Il y a une mode autour de ça, c'est très bien. Mais il y a aussi les jardineries et toute la presse de jardin qui va beaucoup dans ce sens. Et aujourd'hui, on peut dépenser beaucoup d'argent en jardinage et puis des fois même pas avoir grand-chose à la fin. Nous, c'est vrai qu'on va essayer, par ce que disait Gabriel, par des trocs de graines, par des ateliers où on va accompagner les gens pour faire leurs semis, essayer d'autonomiser. C'est aussi l'idée d'arriver à produire une partie de ces légumes et à moindre coût parce que... si on achète des graines, c'est évidemment beaucoup moins cher que d'acheter directement des plants.
Si on les troque, c'est encore moins cher.
Voilà, si on apprend à reproduire ces graines, alors là, on ne dépense plus rien du tout. Si on fait monter une salade en graines, on a des salades pour toute sa vie quasiment. Si on fait soi-même son purin d'ortie, c'est gratuit. Alors que si on va chez une jardinerie, c'est très très cher le purin d'ortie. Donc voilà, nous on va essayer quand même au maximum de rendre les jardiniers autonomes. Et puis, bah, c'est aussi une passion qu'on a de jardin, donc on a plaisir à le transmettre, en fait.
Et puis aussi, c'est vraiment un lieu d'échange de pratiques entre les jardiniers. Et puis, d'échange aussi, si l'un a trop de légumes d'une variété, hop, il va en donner. On échange soit les plants qu'on a fait en trop, les légumes qu'on produit en abondance. Là aussi, ça permet une économie interne.
Vous demander quel est le réel bénéfice de faire croiser toutes ces personnes entre elles. En voilà un, par exemple. D'autres ? À part la mutualisation du matériel et éventuellement l'échange des graines en amont, voire des légumes en trop à la suite, est-ce que vous voyez d'autres choses encore ?
Nous, c'est clair que derrière ce projet, il y a plusieurs objectifs, mais il y a aussi notamment l'objectif du lien social, que les gens se rencontrent, que les gens qui soient d'âge différent, de milieux différents, puissent, via le jardin, autour de sa bêche et de son petit jardin...
sa grelinette.
échanger, se rencontrer. Et effectivement, c'est ça qui est riche aussi dans ces projets, parce qu'on a vraiment à la fois des enfants, des jeunes adultes, des adultes salariés, des gens au chômage, des gens qui sont au RSA. Et on a aussi des retraités qui ont 50 ans de jardinage derrière eux, avec des gens qui ont aussi des approches différentes du jardin, des différentes cultures. On a des fois des graines qui nous arrivent de pays différents. Et voilà, c'est ça qui est super chouette. Ce côté d'échanges, donc voilà, nous c'est ce qu'on essaye de favoriser en proposant des animations régulièrement, en proposant des pique-niques, etc.
Ouais, chacun aussi se mobilise un petit peu autour du projet, c'est ça qui est sympa, qu'on essaye aussi de favoriser un peu, c'est que ce soit un projet où chacun s'approprie un peu la réussite de tout. Donc certains apportent leurs compétences en matière de bricolage, d'aménagement. L'un met à disposition son fourgon pour qu'on puisse aller chercher des matériaux à la déchetterie, etc. Chacun vient un peu avec ses connaissances aussi et les fait partager à tout le monde, les partage avec ses voisins et... Ça, c'est vraiment sympathique aussi.
Lorsqu'ils étaient gérés par R, ces jardins familiaux, est-ce que c'était plutôt le public de R, on va dire des gens qui étaient dans des situations de réinsertion, ou est-ce que déjà c'était ouvert à tout le monde? Et pareil, quel est le vôtre alors de public?
Je pense qu'il semble y avoir eu plusieurs phases. Il y a eu des phases où il y avait peu de monde, plus au Perrier, ensuite ça s'est élargi. Et c'était vraiment sur critères sociaux. Je ne sais pas si c'était vraiment ouvert à tout le monde, mais en tout cas, il y avait ce critère social qui était très important, les revenus. À un moment donné, c'était animé, j'ai vu dans les archives, là, en 2006, par un salarié de R qui était sur la pépinière, sur l'activité de production de pépinière avec des personnes en insertion, et qui avait quelques journées, enfin quelques demi-journées sur les jardins familiaux. Il y avait des conseils, et il y avait... une gestion, mais qui était peut-être un petit peu plus distante. Il n'y avait peut-être pas tout ce qui s'est mis en place maintenant, puisque maintenant, comme on a ces cabanons aussi, on a une vraie gestion des outils. C'est vrai que quand, en 2010, par exemple, quand les outils étaient un peu cachés de ci et de là dans le jardin, chacun les mettait de côté, où il n'y avait même pas de cabanon du tout, en fait. Il y avait juste un gros puits de bac pour les mettre en commun. Donc ça s'est pas mal développé dans le sens d'une structuration et d'une plus grande présence aussi avec la permanence au jardin. Nous, on fait une permanence sur les jardins aussi. Bon, c'était déjà le cas à l'époque apparemment. Mais maintenant, en tout cas, l'envie, c'est d'avoir cette ouverture aussi à tous les publics et de le mettre en avant comme un principe de départ. Voilà, de dire que c'est pas juste. En fait, il y avait l'idée apparemment avant qu'on accompagnait les jardiniers pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils trouvent un autre terrain après. Des jardiniers, donc des personnes en difficulté, qui ne savaient pas jardiner trop ou qui n'avaient pas d'accès à un terrain. Il y a toujours cette envie-là, mais on ne cherche pas forcément, on cherche pas à faire partir les gens une fois qu'ils sont là. S'ils jardinent bien, s'ils remplissent en fait leur part de contrat, qui est de jardiner leur parcelle toute l'année, de participer au moment collectif, et ben ils sont bienvenus à rester. En fait, il y a déjà beaucoup de turnover ici à Die, puisqu'il y a pas mal de gens qui viennent, qui sont de passage, qui restent un an, deux ans, trois ans, qui bougent aussi. Donc en fait, on est vraiment ouvert parce qu'il n'y a pas de nécessité non plus de dire voilà, maintenant on va uniquement avoir des gens selon des critères sociaux ou faire mais tourner les gens parce qu'il y a trop de demandes.
Voilà, vos surfaces ne sont pas saturées du tout.
On est à l'affût de trouver éventuellement de nouveaux terrains pour pourquoi pas faire d'autres voilà pour agrandir un petit peu quand même.
Mais voilà, pour nous
les jardins familiaux, d'accord, mais voilà, vous êtes pas non plus en train de devoir refuser des gens, c'est ça que je voulais dire quoi.
C'est un peu limite. Pourrait, quoi.
C'est non, pas encore vraiment, mais c'est limite. Peut-être que suite de cette interview, on va avoir un flot de personnes qui vont qui vont arriver. Il va falloir qu'on trouve tout de suite un hectare supplémentaire.
Mais on aura aussi des flots de gens qui vont nous proposer leur jardin, leur terrain pour que l'association puisse.
Oui, d'ailleurs, on peut faire un appel dans ce sens-là. Hein. S'il y a quelqu'un qui a un jardin, par exemple à l'Aube, au Perrier ou même dans un autre quartier, dont il se sert pas, qu'il a hérité de son grand-père ou quoi.
Ou qu'il est lui-même grand-père.
Oui. Nous, on est tout à fait prêts à le récupérer avec un bail de location pour le mettre à disposition de personnes. Effectivement, ouais, on peut être à la recherche de nouveaux terrains.
Et la mairie possède-t-elle encore des terrains potentiels?
Pour l'instant, nous, on avait un projet de création d'un jardin partagé, dont Sylvain dira un mot aussi. Bon, on a dû chercher par nos propres moyens. On a trouvé des propriétaires privés avec qui on a fait une convention. Mais donc auprès de la mairie, on n'a pas trouvé d'autres terrains. Il y avait eu des possibilités évoquées, mais bon, on n'a pas eu de proposition d'autres terrains.
Ouais. Pas pour l'instant.
Pas de piste pour l'instant.
Alors, je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur le côté un peu militant quand même de l'association. Même
engagé,
si
engagé.
Engagé, mais bon,
pas forcément
voilà.
Militant.
Je vais me faire l'avocat du vraiment, vraiment mauvais diable quand même. Tous ces semenciers que vous êtes en train de niquer allègrement en faisant des échanges de graines interdites, par exemple. Quoi d'autre encore? Donc, sur le côté militant, parce qu'effectivement, ça va quand même un petit peu questionner ces choses-là, sortir d'une démarche commerciale abusive, essayer de produire des légumes et des plantes qui soient correctes, qui aient un intérêt, qui puissent se reproduire et non pas des plants stériles. Il y a aussi toute une démarche d'éducation populaire derrière les potagers rares.
Ben, un peu, ouais. Là, on vient de sortir une plaquette là, pour communiquer un peu sur l'assaut. On aime bien aussi, même si Gabriel et moi, on est tous les deux un peu issus du mouvement d'agroécologie, on aime bien ne pas mettre trop en avant le côté bio-bio, parce que notre idée, c'est aussi de proposer des alternatives, mais de les mettre à portée de tous. On n'a pas envie de rester non plus enfermé dans un carcan de déjà pro-bio. Moi, personnellement, ce qui me plaît dans ce projet aussi, c'est de pouvoir aller tranquillement avec des ateliers et montrer par la pratique ce qu'on est capable de faire en jardinage, avec des idées militantes, mais aussi en étant ouvert aux gens qui ne sont pas encore dans ces pratiques-là, et puis l'amener tout doucement et mettre la pratique en avant. Mettre la pratique en avant, voilà. Aujourd'hui, il y a une grosse problématique française, européenne, mondiale sur les semences. Il y a toujours Cocopelli qui est en procès depuis des années avec des gros semenciers qui n'aiment pas trop qu'on essaye de sauvegarder toutes ces vieilles variétés-là qui sont en train de petit à petit disparaître. Parce que c'est vrai qu'une variété de légumes, malheureusement, si on ne la reproduit pas d'année en année, une graine, elle a quelques années de fertilité devant elle et puis une fois qu'elle a disparu, elle a disparu. Et derrière, c'est souvent 1000 ans, 2000 ans de sélection de jardiniers amateurs qui ont passé toute leur vie à sélectionner des variétés, à les reproduire. Donc on est assez sensible à ça, effectivement. Bon, pour l'instant, sur le côté interdiction de tout ça, c'est encore un peu flou. Donc on n'est pas non plus, on risque pas de se retrouver en prison demain. Hein. Effectivement, on trouve quand même important de rappeler que faire ces graines de tomates, faire ces graines de salade, il y a toute une partie des légumes, il y en a certains pour lesquels c'est plus compliqué, mais il y a une partie pour lesquelles c'est vraiment très très simple, où avec deux techniques, on peut tout à fait être autonome, et puis on sait très bien que derrière, il y a des multinationales qui aimeraient pas trop que ça se sache, ce genre de savoir qu'ils sont paysans et ancestraux, et qui voudraient nous faire croire qu'il faut racheter tous les ans la nouvelle variété qui vient de sortir, alors qu'en fait... pas du tout. Au contraire, si on veut vraiment avoir une production intéressante, l'idéal, c'est au contraire d'adapter ses semences à son terroir et de les reproduire d'année en année. Et puis là, on arrive à quelque chose qui marche bien chez nous, quoi.
Assez rapidement, d'ailleurs, même en 2-3 ans d'adaptation de terroir, ça va très très vite, en fait. Hein.
Ouais.
Ouais, on peut le dire. Gabriel, oui.
Oui, bah après, c'est vrai que pour certaines variétés, ça va être plus difficile de reproduire soi-même, où il faut vraiment un savoir technique. Et puis, ça demande, voilà, ça demande de l'espace, ça demande des soins aussi particuliers. Donc, nous, c'est vrai qu'on propose voilà, toutes ces possibilités de faire certaines graines soi-même, même les difficiles pour ceux qui veulent se lancer. Mais après, on a aussi, de toute façon, des partenariats ou des... Disons, on commande aussi des graines chaque année chez des semenciers bio. Et puis on
qui
a
sont aussi militants et qui font aussi le choix de proposer dans leur catalogue des variétés qui sont malheureusement interdites. Mais,
Voilà, on a aussi un partenariat avec la jardinerie locale quand même sur des achats d'outils. Ou parfois, on doit quand même acheter quelques plants, par exemple des plants de salade un peu précoces là, pour planter avec les enfants. Voilà, on est quand même dans des démarches aussi de partenariat et puis d'équilibre. Il faut un petit peu de tout pour pouvoir bien fonctionner.
Oui, il y a quand même des bons semenciers, hein, des bons, comment dit-on, pousseurs de semis.
Oui, oui, bah après c'est un métier aussi. Hein, il y a certaines, par exemple, reproduire une courge ou une courgette, ça se fait par pollinisation manuelle avec un pinceau à l'ouverture de la fleur qu'on va venir refermer avec des ficelles. C'est un métier aussi. Hein.
Les potagers Gérard, jardin animé Andiwa, avec vous Gabriel, Silver. Est-ce que vous nous détailleriez un petit peu le volet animation et formation?
Ouais.
Alors animation pour enfants, formation pour adultes, pédagogie active, accompagnement de projets de jardin.
Pour que ça soit, enfin, je redis encore une fois que pour ceux qui n'auraient pas bien saisi cette transition, effectivement, donc là maintenant c'est depuis fin 2014, donc c'est cette association potagers Gérard qui reprend. Donc la gestion des jardins familiaux en partenariat avec la ville de Die, et puis qui a travaillé pendant un peu plus d'un an sur un projet un peu global qui donc à la fois continuerait ces jardins familiaux un peu dans le même esprit, viendrait y ajouter un nouveau projet dont on parlera peut-être après, qui est le projet du jardin partagé, donc qui est un jardin collectif.
Et je vais garder pour la fin.
Et il y a aussi donc un volet autour de l'animation et de la formation. Donc notamment cette année, ce qu'on a tout de suite démarré depuis le mois de septembre, c'est donc l'animation avec les enfants de l'école Chabestan.
Les TAP.
Voilà, dans le cadre des TAP. Donc on est amené à les accueillir deux fois par semaine, donc tous les lundis après-midi et jeudi après-midi. On a des groupes qui viennent au jardin. Pour ça, on a aménagé un jardin pour les enfants. Donc on a une parcelle qui leur est réservée avec des bacs où chaque enfant a son petit jardin. La volonté qu'on a, c'est petit à petit de développer ce côté-là. Donc pourquoi pas nous aussi nous déplacer dans des écoles du territoire pour animer des jardins pédagogiques. Pourquoi pas directement dans une école ou faire venir des écoles chez nous. On avait aussi envie de travailler avec le public des personnes âgées parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont en institution, en maison de retraite, qui ont jardiné toute leur vie, qui ont pu aujourd'hui tous leurs moyens physiques. Et il existe des techniques pour jardiner, notamment en jardinière surélevée ou...
Voilà, debout.
Voilà, ouais. Debout.
Ou donc, assis même.
Assis
dans sa chaise.
Ouais, donc ça, c'est des choses qu'on aimerait bien petit à petit mettre en place sur le territoire.
Et donc puis... là, vous êtes actuellement en démarche pour aller voir ces gens-là, justement. Ça va être là les projets prochains, quoi.
Ouais, ça va être les projets prochains.
Donc préparez-vous à recevoir les potages Gérard chez vous, hein, dans les écoles et dans les maisons de retraite.
Voilà, et puis il y avait aussi un volet formation qu'on aimerait aussi développer. Donc Gabriel et moi, tous les deux, on est relativement formés, expérimentés à pas mal de techniques de jardinage écologique. Et on a la volonté, en tout cas, de petit à petit, soit leur proposer à la fois des formations pour adultes, qui pourraient être des formations à la journée. Donc ça, je pense qu'on va se le garder plus pour l'année prochaine, parce que cette année, on a beaucoup de choses qui démarrent, et puis on peut pas tout démarrer en même temps. Il y a une initiative là qui est portée sur le DIWA cette année, qui s'appelle Défi Alimentation. Famille alimentation positive.
Voilà, c'est ça.
Donc, alimentation positive pour les familles en défi.
Qui est coordonnée par la Carline sur le DIWA et qui est sinon portée par l'association Agribiodrome et puis c'est par ça, la région.
La région, voilà.
Ça, pour présenter très vite, c'est un groupe de 8 familles sur le DIWA et ça se passe ailleurs en Drôme. Donc, c'est des groupes de familles qui se regroupent. Et on leur propose sur un cycle de 8 mois ou un truc comme ça, des formations comme des formations en diététique, en cuisine. Et l'idée, c'est de petit à petit s'entraider et se former pour consommer plus bio et plus local.
Et moins cher aussi.
Et moins cher.
Sans augmenter son budget.
Voilà. Et dans ce cycle, de ce défi, il y a prévu une formation au jardinage. Donc là... On a prévu du coup avec Agribiodrome de faire 3 formations dans ce défi. Donc on va faire ça à Cré, à L'Oriol et à Die.
Sylvère, tu vas aussi animer un atelier semi-plantation le 27 mars.
C'est ça, c'est là, c'est dans pas longtemps, le 27
voilà,
mars.
Voilà, vendredi 27 mars ouais. À Bitterre.
Oui,
ça c'est dans le cadre de la corderie.
Ça c'est la corderie voilà, qui organise une petite fête du printemps avec pas mal d'ateliers. Bénévole sur le jardinage, donc là effectivement moi je proposerai un petit atelier sur les techniques de semis.
Vous êtes aussi passé au forum Faisons-le là, non ?
Voilà, oui, effectivement, oui, moi j'ai présenté un peu l'association au forum Faisons-le et ça se fera, 21 mars, et c'était sympa, c'était l'occasion d'échanger un petit peu avec les présents sur l'esprit du projet, comment ça fonctionnait, et puis de rencontrer aussi d'autres jardiniers d'un jardin partagé de Romans. Oui. Sur Isère, ouais, c'était vraiment sympathique. On sera amené à proposer des animations tout public aussi, peut-être en lien avec des événements. Par exemple, il y aura la semaine des semences paysannes fin septembre. À ce moment-là, on pourra reproposer un troc de graines et puis des animations sur la reproduction des semences, des choses comme ça. Au jardin familial aussi, alors... Bon, à vérifier parce qu'on est. Je suis en train de voir à le mettre en place, mais il pourrait y avoir aussi des moments de jardinage pour les jardiniers des jardins familiaux qui seront aussi ouverts aux adhérents de l'association. Après, si on a beaucoup de monde, on pourra faire des animations spécifiques, publiques, enfin tout public, quoi, d'autres moments que les moments de jardinage pour les jardiniers des jardins familiaux. Mais ça, ça va être le mercredi en début d'après-midi, de 14h à 15h30 à peu près. Atelier pour pratiquer un petit peu, voir quels sont les travaux de saison à faire. On a une parcelle aussi qui peut servir pour la démonstration un petit peu, avec des cultures sur but ou voilà. Et des moments d'échange entre jardiniers, voilà, qu'est-ce que je sais faire, moi tiens j'ai réussi tel truc au jardin, moi j'ai une technique qui marche très bien, ou alors moi j'ai des difficultés en ce moment. Donc des moments comme ça, un peu d'échange, et on sent qu'il y a une demande, puisque lors du troc de graines, il y a des personnes qui m'ont dit voilà, moi j'habite à Châtillon, j'aimerais bien avoir des échanges avec d'autres jardiniers. Donc j'ai dit mais venez à ce moment-là, c'est ouvert, voilà, vous adhérez à l'association et puis vous pourrez participer au groupe des jardiniers d'échange.
D'ailleurs, vous l'avez bien noté sur le fly, un jardin animé en Diwa, donc on peut aller partout. Hein. Non, mais ce serait un assez beau défi finalement de rassembler les jardiniers dans leur ensemble individuel et dans les jardins collectifs pour échanger systématiquement sur leurs pratiques.
Ouais, ça fait partie un peu du rêve qu'on porte avec cette association. Il y avait l'idée, alors c'est pareil, ça, je pense qu'il va falloir qu'on prenne le temps de le mettre en place, mais il y avait vraiment cette idée avec les potagers Gérard d'être aussi un peu un pôle ressource sur le jardinage. Donc bientôt, on va avoir la chance d'avoir un local qui va nous être mis à disposition par la mairie de Die, qui sera à Place Jules Plan.
Juste donc en un bureau.
Un bureau, voilà. Ouais. Voilà.
Place Jules Plan,
ouais,
dis donc,
en face de la mission locale. Et ce qu'on va essayer de mettre en place petit à petit, c'est notamment une bibliothèque de documents, de livres sur le jardinage au naturel, avec l'envie de le mettre à disposition, de les mettre en prêt. Et puis, avec ces initiatives-là, l'envie aussi, c'est que les jardiniers se rencontrent, parce que le jardinage, c'est un monde infini de trucs et astuces.
Et qu'on fait parfois vraiment dans son coin, c'est vrai que c'est pas mal dit ça.
Et ouais.
Son petit jardin le week-end, le soir.
Et ouais, alors il y a plusieurs familles de jardiniers, hein. Effectivement il y a des jardiniers qui aiment vraiment avoir leur jardin, parce que le jardin c'est un terrain d'expérimentation, donc il y a des gens qui sont très solitaires dans leur jardin, et puis il y en a qui sont plus dans le partage et le collectif, et puis l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut très bien avoir envie d'être tranquille sur son jardin, et puis à côté de ça, d'aller bavarder avec un autre jardinier.
Mais ici à Die, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges, je pense qu'ils se font sur les zones de jardin, c'est ce que rappelait cette dame de la LPO, Hélène, qui est jardinière, je crois, au Perrier. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'échanges qui se font de manière informelle entre les gens qui ont des jardins, sur les terrains au Perrier, à l'Aube, etc.
Oui, quand même, ils sont tous collés, les jardins. Donc
bon. Voilà, il y a pas mal d'échanges. Propice, ouais. Et nous, on propose la même chose, mais finalement, sur un terrain qui fait un peu plus de 2000 m², bon, sur la zone jardinée à l'Aube, où donc c'est une sorte de micro, les gens sont encore plus près les uns des autres. Mais on propose ça, mais l'envie, c'est aussi qu'il y ait ces échanges qui puissent se créer avec ces autres jardiniers des autres zones de jardin qui ont, eux, une expérience de longue date. On discute régulièrement avec d'autres jardiniers en leur proposant, pourquoi pas, de venir échanger avec les jardiniers des jardins familiaux. Et tout le monde est aussi invité. Il y aura la fête des jardins le premier week-end de juin aux jardins familiaux. Je ne sais pas encore si ce sera le samedi ou le dimanche, c'est les 7 et 8 juin. Donc là, c'est porte ouverte et c'est aussi des moments pour échanger. Et il y aura sans doute une fête aussi, comme on fait d'habitude, à l'automne. Et là, le lieu reste encore à déterminer, quoi, mais une fête de l'automne, de fin de saison.
Les Potagers Gérard, association qui sera donc réinvitée régulièrement sur RDIWA pour suivre toute cette activité.
Ouais, donc faut pas qu'on dise tout maintenant.
Non, allez, on dit pas tout. Donc c'était Gabriel Naudet sur les jardins familiaux. Alors, on va aborder ce troisième volet de ce très beau fly, d'ailleurs, que je trouve très joli et très clair.
Bah, d'ailleurs, on peut faire un peu de pub pour Julie. Julie Berger qui nous l'a fait, donc qui est illustratrice, infographiste à Die.
Eh ben bravo, voilà, c'est simple et efficace. En rouge, jardin partagé. Donc là, on contacte Sylvain Lerouge. Qu'est-ce que donc ce jardin partagé?
Alors donc ça, c'est un nouveau concept de jardin qu'on démarre cette année à Die. Le principe, c'est un grand jardin avec un groupe de personnes sur lequel tout est collectif. Donc ça veut dire que les gens jardinent ensemble, se retrouvent pour jardiner ensemble, et puis à la fin des séances de jardinage collectif. Il y a une division des récoltes qui se fait. Donc on jardine ensemble et on se divise les récoltes. Et sur ce projet, donc, il y a donc un animateur. Donc là, c'est moi qui est positionné dessus et qui accompagne ce groupe. Et on se retrouve alors 3 fois par semaine. Donc là, pour l'instant, on démarre. Là, on en est à 2 fois par semaine. Donc en ce moment, c'est tous les mardis après-midi et jeudi matin. Donc mardi après-midi, c'est 14h-17h. Jeudi matin, c'est 9h-12h. Et puis, on va mettre en place prochainement aussi le samedi matin. Donc là, ça sera 10h-13h.
Ce groupe constitué, établi, fixe pendant un an, par exemple? Ou alors, on vient, on rentre, on sort et...
Bah, ça permet quand même une flexibilité, le jardin partagé, parce que justement c'est ça un peu la force de ce projet-là, c'est que c'est un groupe qui le mène, donc c'est plus facile s'il y en a quand même des gens qui sont réguliers, mais disons qu'on n'est pas non plus astreint, on peut très bien venir au jardin partagé si on a seulement l'intention d'y venir qu'une fois tous les 15 jours, ça reste possible aussi. Si on est très motivé, qu'on veut venir les 3 fois par semaine, c'est un peu au choix.
Comment on divise les légumes à la fin? Enfin, je veux dire, c'est pas au prorata du temps de travail.
Alors non, c'est
si
pas au prorata.
40 personnes dans le jardin.
C'est pas au prorata du temps de travail. Alors faut savoir que pour créer ce concept de jardin collectif, on n'est pas quand même parti de zéro. Nous, on s'est quand même bien appuyé. Alors on est pas mal en lien avec un réseau qui s'appelle le réseau Page Jardin au niveau. Donc ça, c'est le réseau Rhône-Alpin des jardins partagés.
D'accord. Ah ouais.
Qui est une antenne d'un réseau national qui s'appelle le Jardin dans tous ses états. Donc c'est un réseau qui a une petite vingtaine d'années, qui à la base est allé faire des voyages d'études, donc des passionnés en France qui sont allés faire des voyages à la fois aux États-Unis, au Canada, qui ont été voir beaucoup de jardins collectifs, parce que c'est né là-bas en fait, dans les années 70, qui ont été voir beaucoup de jardins collectifs, qui ont été voir comment ça se passait, qui ont commencé à ramener ces projets-là en France, qui se sont structurés. Et puis aujourd'hui, on a la chance à Lyon d'avoir ce réseau, la Page Jardin, qui est très dynamique, qui propose à la fois des formations, qui est centre de ressources. Donc pour monter ce projet, à la fois, on s'est beaucoup appuyé sur le réseau. On a, avec Gabriel, été visiter d'autres jardins en région Rhône-Alpes. On est pas mal en lien aussi avec un autre jardin partagé qui est à Mince, dans le Trièvre, qui s'appelle le Jardin des Pousses Vertes,
oui,
qui existe depuis 8 ans.
C'est ça, j'allais en parler.
Pour ce projet de jardin collectif, il y a eu un moment... tout l'hiver là, avec un premier groupe qu'on avait appelé le groupe de travail, donc qui a bûché sur la rédaction d'une charte de fonctionnement pour ce jardin. Et donc le système, pour en arriver au système de division des récoltes, nous on est cette année, donc on va partir avec un système qu'on a un peu copié sur un autre jardin et puis on verra comment on se l'approprie. Mais le principe, c'est les personnes qui sont présentes récoltent, ceux qui sont absents, tant pis pour eux.
En fin de session de jardinage, quoi. Après avoir jardiné, après être arrivé au plus tard, je ne sais plus à quelle heure, à 9h30, et d'avoir jardiné toute la matinée, après on récolte. Mais
voilà, alors il
que...
y a des jardins effectivement qui mettent même une heure limite d'arrivée pour éviter que les gens, si c'est 9h midi, qu'on arrive à 9h moins le quart juste pour la récolte. Donc il y a des jardins qui donnent par exemple une heure, il faut arriver avant 10h30 pour avoir le droit de récolter. Donc nous on va expérimenter tout ça. Mais effectivement, l'idée,
c'est un peu fou, quoi.
L'idée, elle est là.
Mais en fait, c'est vrai qu'il y a certaines périodes de l'année où il y a peut-être moins de choses à récolter. Mais bon, finalement, on peut quand même avoir des choses à récolter un petit peu toute l'année aussi.
Oui, c'est
un
ça.
Petit peu l'objectif.
Après, il y a quand même une distinction qui se fait dans beaucoup de jardins. C'est pour les légumes qu'on appelle les légumes de conservation. Par exemple, des pommes de terre qui se récoltent tout d'un coup et qui se gardent longtemps. Bon, bah, pour ces légumes-là, on fait une exception où là, on fait des lots pour tout le monde et les gens viennent les chercher quand ils peuvent. Mmh. Mais après, une salade, une tomate, il y a des légumes ou un haricot, quand ils sont prêts, il faut les manger tout de suite. Donc, on ne peut pas se permettre de les mettre de côté pour quelqu'un qui viendra éventuellement les chercher dans 15 jours. Donc ça, c'est un peu le principe qui a été testé ailleurs, qu'on va nous expérimenter ici. Voilà.
En vous entendant, et notamment sur le volet, évidemment, diversité biologique, écologique, etc., on s'imagine mal que vous fassiez de la monoculture. Pour autant, est-ce qu'il y a une orientation sur les choix de ce qui sera planté dans ces jardins? Est-ce que vous orientez un petit peu les gens quand même vers, par exemple, une plus grande autonomie alimentaire, une grande diversité? Ou est-ce qu'on peut dire, bah tiens, moi je loue et puis j'ai envie de faire des framboises, parce que j'adore ça et...
Bah, par exemple, aux jardins familiaux, la convention dit qu'on ne doit pas faire de la monoculture, donc ça veut dire qu'on promeut l'idée d'avoir un jardin un peu diversifié. Pas faire juste un champ de pommes de terre ou de pas avoir que des cultures gourmandes aussi, essayer d'associer les plantes et puis d'avoir un jardin qui permette d'avoir un petit peu de tout, des choses gourmandes, des plantes moins gourmandes, des plantes qui restent en place toute l'année, enfin voilà, des
oui, les plantes qui aident, qui elles ne sont pas mangées d'ailleurs souvent
aussi, laisse, oui ouais. Ouais. Aussi voilà. Et après, chacun est quand même très libre de choisir ses variétés, la façon dont il va les agencer. Nous, on conseille en tout cas une diversité, et puis des associations, et puis une rotation aussi sur les parcelles qui sont parfois petites. Il y a des parcelles entre 20-25 mètres carrés et après plus de 100 mètres carrés. Grâce aux associations, si on a une petite parcelle de 25 mètres carrés, on arrivera à faire pas mal plus de choses intéressantes économiquement en ayant des associations de plantes que si on fait juste un carré de pommes de terre, parce que les pommes de terre, c'est pas ce qui coûte le plus cher sur le marché non plus. Voilà, c'est aussi essayer d'avoir des plantes qui vont nourrir de manière qualitative. Et puis, après, on peut aussi faire des fleurs pour différents usages, etc. Au jardin familial, on a aussi une zone collective sur la partie haute du jardin, avec un jardin d'aromatiques, donc... Et on a aussi des endroits où on peut ramasser des fleurs ou des choses comme ça. Donc on peut aussi ramasser certaines choses dans les parties collectives et puis se concentrer sur sa parcelle, sur ce qu'on veut faire juste pour soi ou qui a pas encore sur ces zones-là.
Mais après, c'est sûr que les gens, ils sont aux jardins familiaux, ils sont autonomes hein, sur leur jardin. Donc ce n'est pas nous qui allons leur dire ce qu'il faut planter. Nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre des livres, des revues à disposition pour essayer de donner des idées, de sortir la banque de graines, d'organiser des ateliers pour essayer de découvrir des choses qu'ils n'auraient pas forcément pensé à faire. Et puis après, ce qui est aussi très chouette dans ces projets, c'est qu'il y a une émulsion qui se fait entre les gens. À l'Aube et au Perrier d'ailleurs, tous les jardins sont collés les uns aux autres. Il n'y a pas vraiment de barrière, c'est très ouvert. Donc s'il y en a un qui commence à aller semer ses petits pois, s'il y en a un autre qui est à côté qui le voit, il se dit « Ah tiens, c'est peut-être le moment de semer les petits pois ». Et puis il s'y met aussi, et puis l'autre aussi. Et puis il y en a un qui commence à mettre une bande de fleurs, et puis l'autre qui dit « Ah mais c'est sympa ». Et ainsi de suite, il y en a un qui fait de la déco dans son jardin. Et l'autre se dit « Ah mais c'est vrai que c'est sympa aussi de mettre de la déco. Moi aussi je vais décorer mon jardin ». Il y a une émulsion qui se fait comme ça.
Et au jardin partagé, vous avez fait des choix aussi assez divers, non, dans les cultures
Bah, au jardin partagé, là, c'est un peu différent, parce que là, donc c'est le groupe qui va décider ensemble ce qu'il va cultiver. Donc là, bah, c'est la première année, hein, on démarre. Donc pour l'instant, on en est au stade où on a fait des réunions de collectives, où on a demandé qu'est-ce que vous voulez manger, qu'est-ce que vous voulez cultiver. Donc on est arrivé à une liste un peu classique de 25 légumes. Donc on a fait une commande de graines, on a installé une serre sur ce jardin aussi, pareil, dans la même idée d'être autonome sur nos plants. Là, on est en plein dedans, là. Là, c'est un peu le casse-tête du plan de culture, à savoir...
faut pas faire trop de réunions, après vous allez être à la bourre, non?
Ouais.
Le jardin, faut pas traîner, quoi.
Non, ouais. Ouais, mais ça permet aussi de s'organiser pour être moins à la bourre après, quoi. Ça permet de bien démarrer, parce que c'est vrai que l'hiver, c'était propice aux réunions pour après pouvoir bien démarrer. Et après, au jardin partagé, vous avez aussi des petits fruits, des arbres fruitiers, enfin des choses...
Ouais, on avait la chance de récupérer un terrain qui n'était pas nu, d'ailleurs sur lequel il y avait déjà eu auparavant plusieurs initiatives de jardinage en collectif. Et puis, c'était des groupes qui s'étaient constitués, un peu délités. Mais le jardin, il avait déjà une petite histoire de ce côté-là. Donc, il y a déjà des aménagements, il y a déjà un compost... Il y avait déjà une espèce de spirale avec des buts qui étaient dessinés, qu'on a conservés. Dans le choix des légumes, ce qui ressort beaucoup aujourd'hui dans le public qu'on a et dans le jardinage en général, c'est quand même le facteur plaisir. Donc on vient pour se faire à manger, mais on vient aussi beaucoup pour se faire plaisir. Dans le choix des légumes, je pense que là, en tout cas au jardin partagé, c'est ça qui est ressorti. Il y a des gens qui ont eu envie d'expérimenter du panais, du chou rave, des choses qu'ils n'avaient jamais cultivées ou pas trop mangées. Donc là, il y a vraiment le facteur plaisir où Peut-être qu'on n'en aura pas des tonnes pour tout le monde, mais au moins on aura la chance de... Et on se fait plaisir sur les variétés aussi. Si on fait une betterave, on va essayer de chercher une betterave ancienne qu'on ne trouve pas dans les magasins. Voilà, on va essayer de se faire plaisir.
Ou les tomates aussi, là, au niveau des variétés, il y a pas mal d'essais. C'est amusant de se promener à la saison des tomates au jardin, parce qu'on voit... L'année dernière, il y avait des petites tomates noires, vraiment noires, luisantes.
On n'avait jamais vu ça.
Ouais. Tomates du voyage, on voit des choses vraiment amusantes. D'ailleurs, on a pas mal de semences de ces variétés différentes là, dans le stock de graines. Donc, chacun aussi peut en découvrir et puis essayer chaque année.
Bien, et eh ben voilà, les potagers rares, c'est une initiative fondée sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de partage et de développement du lien social. J'avais envie de le dire, parce que si ça n'a pas été bien compris pendant cette présentation. Maintenant, où vous trouve-t-on? Comment vous approche-t-on? Comment adhère-t-on à cette association?
Alors, nous aurons donc ce local dont on a parlé tout à l'heure, Place Jules Plan. Et il y aura les horaires d'ouverture indiqués dessus. Alors, par ailleurs, on peut aussi nous joindre, le numéro général de l'association. Pour l'instant, c'est le numéro de portable qui servait pour les jardins familiaux. Donc, c'est l'ancien numéro historique. C'est le 06 60 24 50 83. Donc ça, c'est moi qui ai ce téléphone, c'est moi qui répondrai. Sylvain, il est joignable concernant le jardin partagé au 06 82 77 47 22. Et après l'association, on peut aussi la joindre par mail, donc à l'adresse lespotagersrares@gmail.com. Et le blog n'est pas tout à fait à jour, mais on va bientôt plancher un petit peu dessus pour remettre les dernières choses en ligne. Donc ce sera... lespotagersrares.blogspot.fr.
Et pour nous voir, par exemple, pour venir se renseigner ou quoi, il y a aussi la permanence du mercredi après-midi. Donc Gabrielle, elle fait une permanence tous les mercredis après-midi au Jardin de l'Aube. Donc là, vous êtes sûr de trouver quelqu'un. Ça peut être aussi passer sur un des moments que j'ai annoncé là sur le Jardin Partagé. Donc le Jardin Partagé, malheureusement, il n'est pas encore fléché. Donc il se trouve, alors je peux expliquer rapidement, mais il se trouve quartier de l'Aube dans un jardin qui est proche de la résidence Vercors Park.
Bien, je suis perdu. Vercors Park, c'est
chemin
en face
de l'Aube.
Vous nous appelez, vous passez à la permanence et on vous indiquera où c'est.
Bon, voilà, et puis il sera fléché donc un jour.
Un jour, ouais.
Est-ce que vous voulez dire merci à des gens?
Si, moi, on veut bien profiter quand même pour faire un petit remerciement à nos partenaires, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a réussi à monter ce projet. Parce que donc il y a quand même eu tout un temps de maturation de ce projet. Ça fait un an et demi qu'on travaillait sur ce projet de reprise là par les potagers rares.
Et l'un et l'autre être salariés.
Voilà. Ouais, tous les deux, on est salariés de l'association.
Donc c'est bien, une association qui embauche encore une dans le DIY, rappeler.
Ouais, et ça c'est notamment grâce à nos partenaires. Donc on a la ville de Die en premier, qui déjà nous prête les terrains, qui nous donne une subvention aussi annuelle et qui va nous prêter le local. Donc là, ça c'est super chouette. Et on a aussi le département, la Drôme, qui a répondu bien présent à l'appel qu'on a fait donc sur le volet insertion. Et puis là, plus récemment, la région Rhône-Alpes. Donc on a répondu à un appel à projet. On a eu la chance d'être sélectionné pour un soutien pour 3 ans. Ce qui nous permet de lancer les postes salariés sur ce projet-là. Et puis enfin, la CAF aussi, qui nous fait un petit soutien.
Voilà, et on est aussi membre donc du Passe Jardin dont on parlait tout à l'heure, le réseau Rhône-Alpin des jardins partagés, qui nous ont accompagnés aussi
dans le montage du projet.
Et où on participe régulièrement à les réunions du réseau, ça se trouve à Lyon, mais il y a des jardins, des membres de jardins partagés de toute la région Rhône-Alpes. Et on est aussi membre du réseau Drômois d'éducation à l'environnement, le RDEE. C'est un autre réseau qui permet d'avoir des échanges de pratiques et de se nourrir à la fois de ces échanges et puis des bons plans. Tiens, il y a un appel à projet ou tiens, moi, je fonctionne comme ci, comme ça. Donc, ça,
et
c'est
puis avec
bons
ce
soutiens.
Volet formation que vous prévoyez aussi, ça paraît évident qu'il fait partie de réseau d'éducation à l'environnement.
Voilà. Et puis après, on a aussi tous les partenaires associatifs qui nous ont bien... Avec qui on a des échanges fructueux, comme l'association Médiane à Boulk, qui est sur l'accueil d'enfants dans un gîte avec jardin pédagogique, jardin en agroécologie. L'association Humic aussi sur les éco-gestes qui nous ont bien aidés avec le compost, faire des animations autour du compost aux jardins familiaux. Florémont sur les plantes sauvages,
l'espace social voilà. Aussi qui nous oui. A pas mal conseillé aussi dans toute notre phase de montage de dossiers, qui nous a aidé à faire les budgets, qui nous aide aussi ponctuellement pour monter des animations quand on fait des grandes réunions, donc ça on les remercie aussi. Et puis aussi un petit mot pour nos administrateurs, parce que là aujourd'hui on est venu les deux salariés, mais derrière on n'est pas tout seul bien évidemment. Donc on a une petite équipe aussi d'administrateurs qui ont été très mobilisés et très présents dans toute cette phase de montage. Donc on peut les citer, hein. Il y avait notamment Jean-Pierre Gall qui est président de l'association, depuis son origine, depuis 2009. Elisa Préti qui est trésorière, et donc tous les deux ils ont fait beaucoup de déplacements avec nous à Valence, rencontré des partenaires, etc. On a été amené à les emmener visiter des jardins. Enfin, il y a eu beaucoup d'investissements qui a été fait. Et puis aussi, dernier point qui est en lien, c'est que nous, on est une association quand même là qui est jeune avec tous ces projets. On fera une assemblée générale probablement au printemps et on va être en recherche de nouveaux administrateurs. Donc s'il y a parmi déjà nos adhérents ou des gens qui sont intéressés par le projet et qui ont envie de nous rejoindre.
Faire partie d'un CA.
Ouais.
Combien d'adhérents déjà, les Potagers Gérard?
Là, tous les jardiniers sont amenés à être membres.
Ouais, bien sûr.
Donc, les jardiniers des jardins familiaux, ça en fait une bonne quarantaine. Jardins partagés, ça en fera une bonne vingtaine. Donc, on est déjà presque, disons, 70. Après, il y a tous les adhérents qui veulent venir en plus. Donc, ça va dépendre, on verra.
Ouais.
On pourra être autour d'une centaine, peut-être.
On a sorti quand même des bons chiffres.
Et donc, les bénévoles aussi nous aident beaucoup. On a des bénévoles aussi qui sont venus pour l'étape, puisque maintenant, on est un seul animateur par session. Moi, je fais le lundi, Sylvain le jeudi. Et donc, il y a des bénévoles qui viennent aussi pour nous aider sur toute la période ou ponctuellement. Donc ça aussi, on recherche et c'est vraiment sympa, ceux qui viennent accompagner le groupe. Et puis, des bénévoles sur plein d'autres choses, quoi, qui nous aident pour les chantiers ou pour la communication. Donc, on est aussi... ouvert évidemment à tous ceux qui ont envie de mettre la main à la pâte et de s'intégrer dans l'association.
L'association Les Potagers Rares avec Gabriel et Silver. Merci, non, c'est parce que pour pas qu'on se dise que c'était les amis de Gégé. Hein,
et oui,
j'aime bien
ça pourrait, hein, mais...
ça a été fait exprès quand même un peu.
Oui, un peu, ouais.
Hein, un petit peu.
Tout à fait.
Donc voilà, Gabriel, Silver, merci à tous les deux pour cette présentation. Bonne suite et à très bientôt sur cette antenne, surtout pour tout ce qui va arriver.
Et oui, merci.
Ben merci.
À bientôt.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.